Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oh là là, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Où ai-je la tête aujourd'hui? Ah oui, oui, mais oui, bien sûr, c'est l'heure de l'émission. Didier Robert, vous faites partie d'une association?
Oui, absolument, oui.
Mais d'ailleurs, la question est simple. Je fais partie d'une association, vous faites partie d'une association, celle qui gère Radio Allegre, Allegre FM. Voilà, alors vous l'avez compris, c'est l'heure de l'émission tout simplement, en route vers de nouvelles aventures.
Bonjour. Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle étincelle dans la ville sur Allegre FM. Aujourd'hui, nous sommes dehors, comme très souvent dans cette émission. Nous sommes boulevard Auguste Blanqui dans le 13e arrondissement. Et c'est depuis le marché, parce qu'il y a un marché boulevard Auguste Blanqui, que nous réalisons cette émission. Un marché particulier qui est transformé pour l'occasion. Et quelle occasion? En forum. Un forum des associations tous les ans en septembre sur ce lieu. Les associations se retrouvent et présentent leurs activités. Et nous sommes là, nous allons les rencontrer, nous allons discuter avec eux. Allez, plein de bonnes surprises qui vont se dérouler pendant tout ce forum. Moi, j'y ai vu plein de choses incroyables. Un tissu d'associations très riche avec énormément de choses. Allez, on démarre tout de suite.
C'est parti, en route vers de nouvelles aventures. Quand vous marchez, vous courez ou vous avancez tout doucement? Comment ça se passe?
Il y a plusieurs allures, donc il y a allure lente, allure moyenne, allure soutenue. Donc on choisit sa randonnée en fonction de ses possibilités.
Martine, et vous Martine? Parce qu'il y a deux Martines là, c'est bizarre comme histoire.
Voilà, pareillement, donc je fais plutôt de la marche nordique, donc c'est une marche un petit peu plus soutenue, donc ça fait du bien, c'est très dynamique.
Eh bien vous l'avez compris, on va parler de marche, hein. Finalement on entend partout marcher, 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 bah là on va voir avec vous Martine 1, parce que je vous ai baptisé comme ça, Martine 2, il y a deux Martines hein, qui vont témoigner à ce micro dans l'étincelle dans la ville, on va voir avec vous comment ça se passe. Allez, c'est parti, alors vous collaborez, vous êtes adhérent de l'association Randonneurs de Paris. Alors pour moi les randonnées c'est la campagne, mais à Paris on peut faire des randonnées, Martine 1?
C'est écrit que les randonnées pédestres ont lieu dans toute l'Île-de-France. Et donc, en fait, les randonnées qui sont supérieures à 6 km ont lieu dans toute l'Île-de-France, donc assez loin de... On va jusqu'à Fontainebleau, jusqu'à la vallée de Chevreuse, en Val d'Oise, etc.
Des coins charmants que je connais, que j'ai pu pratiquer à vélo, en prenant le RER avec mon vélo, c'est formidable. Moi, je suis plutôt vélo. Hein. Martine 2, alors, comment ça se passe, comment ça s'organise, ces randonnées?
Il faut aller sur le site, identifier les différentes propositions de randonnée qui sont faites. Et ensuite, il suffit juste de se rendre au point de départ à l'heure indiquée. C'est tout simple. On n'a rien d'autre à faire. Tout est accessible en transport en commun.
Alors, quand même une précision, parce qu'il y en a qui doivent se poser des questions. C'est quoi le kilométrage minimum dans l'organisation de vos randonnées? Qui veut me répondre? Martine 1, Martine 2? Martine 1.
C'est la rando santé. Nous organisons des randos santé. Nous avons un animateur qui a eu un brevet pour ça, qui est spécialisé. Et donc, c'est 6 km pour rando santé. C'est adapté pour des personnes qui ont eu des soucis divers et variés ou qui démarrent une activité rando et qui veulent se tester un peu.
Alors, 6 km, c'est raisonnable, hein, on va le dire comme ça. Est-ce que parfois, vous avez des randonnées plus importantes, des randonnées de nuit ou des randonnées dans la ville, Martine 2?
Alors, les randonnées dans la ville, oui, il y a les promenades commentées dans Paris, donc qui se déroulent sur une demi-journée et qui permettent de... Voilà, il y a des personnes qui aiment beaucoup l'histoire ou l'architecture et qui nous font profiter de leur connaissance. Et ensuite, pour les randonnées pédestres, par contre, on a des randonnées qui font 30 km. On part pour la journée. Et voilà, il y a différentes choses. Il nous est arrivé, effectivement, d'avoir une petite randonnée de marche nordique la nuit dans le bois de Vincennes. C'était amusant.
Alors, pour les randonnées urbaines dans la ville, il faut compter combien d'heures à peu près?
Les randonnées dans la ville, elles sont sur 3-4 heures, sur une demi-journée en général, pas plus.
Des projets pour les randonneurs de Paris, des idées, vous avez quelque chose peut-être à compléter? Martine 1.
Depuis le mois de juillet, nous avons en plus des randos dessins. Donc là, donc des personnes viennent faire du dessin dans un endroit charmant qui est aux alentours de Paris.
Ils dessinent pas en marchant?
Non. Ils peuvent changer de lieu, mais ils s'arrêtent et puis ils dessinent pendant 45 minutes et puis remarchent un petit peu, etc. Voilà. Alors, c'est pas n'importe qui peut venir, même si on n'a pas suivi de dessin toute sa vie. On s'initie au dessin.
Une nouveauté, la rando dessin, je connaissais pas. Vous faites du bungee pump, parce que j'ai vu ça sur votre affiche. Alors, Martine 2, c'est quoi le bungee pump? Racontez-nous. Là,
Oui,
prenez l'affiche, oui. Alors, je rappelle que nous sommes au Forum des associations, boulevard Blanqui, dans le 13e arrondissement, à l'occasion de ce forum. Toutes les associations du 13e se réunissent, il y en a même qui viennent d'ailleurs. Alors, le bungee pump.
Alors, c'est une marche qui se fait avec des bâtons qui ont des élastiques. Donc, ça fait une pression. Et donc, c'est une marche dynamique, voilà, qui est agrémentée par des exercices de renforcement musculaire. Et en général, ce sont des sorties qui durent 1h30 à 2h.
Alors, l'élastique, il s'accroche où? Ça marche comment?
L'élastique est à l'intérieur du bâton. Il ne se voit pas. C'est comme un ressort, en fait. C'est-à-dire, quand on appuie sur le bâton, ça fait une pression. Et cette pression permet de faire une marche dynamique et de faire du renforcement musculaire.
Voilà, Martine 2, vous l'avez bien décrit. Il y a un ressort dans le bâton. Quand on appuie sur le bâton, ça muscle et on devient Rambo, pratiquement.
Tout à fait.
Alors, je vois aussi que vous proposez des randonnées sophro. Alors, j'imagine sophro, le diminutif de sophrologie. Martine 1.
Alors, c'est la même personne qui fait le bungee pump, qui a également un diplôme de sophrologie et qui nous propose une fois par mois une rando sophro dans des endroits agréables. La prochaine a lieu au Jardin Tropical, dans le bois de Vincennes. Et donc, elle alterne une petite marche. Et puis, des moments de relaxation avec une thématique toujours prévue à l'avance et qui permet aux personnes de se relaxer, de reprendre un peu du bien-être, en fait.
Un jardin tropical, René Dumont, que j'avais découvert il y a 2 ans, je crois, à l'occasion d'une étincelle dans la ville qui se passait dans le bois de Vincennes, à l'occasion de la Cité du Développement Durable, où nous avions reçu sa directrice générale, sa présidente même, Madame Naïlou. Et évidemment, un endroit formidable que j'adore et dont je raffole. On va continuer notre marche, nous, dans l'étincelle dans la ville. On vous remercie toutes les deux. Martine 1, merci.
Merci à vous.
Martine 2, merci.
Merci, bon week-end. Au revoir.
Et merci de nous avoir accordé cet entretien, parce que là, vous êtes en train de plier bagages. Vous allez partir en randonnée, là, une autre randonnée.
Oui, c'est le cas de le dire. Voilà, on va partir en randonnée.
Merci beaucoup. Martine.
Bonjour, vous êtes...
bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
C'est quoi la différence entre un gynécologue et un accoucheur, Daniel?
Alors, il y a les gynécologues obstétriciens et chirurgicaux qui vont suivre les femmes pour les grossesses et pour les interventions chirurgicales. Et il y a une autre spécialité qui s'appelle la gynécologie médicale. C'est celle qui nous concerne, qui concerne notre association. La gynécologie médicale, c'est un médecin qui va suivre les femmes depuis leur puberté jusqu'à la fin de leurs jours pour tout ce qui est la santé gynécologique.
Ça tombe bien, parce que nous sommes au Forum des associations du 13e arrondissement, de retour dans l'étincelle dans la ville sur Aligre FM. Nous sommes boulevard Auguste Blanqui, où des centaines d'associations se réunissent. Et vous, Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie, vous militez au comité de défense de la gynécologie médicale, le CDGM. Voilà. Alors, c'est quoi ce comité? À quoi ça sert?
Ce comité, il a été créé en 97 par une gynécologue qui s'appelle Dominique Malvy, qui habitait Albi et qui a sonné l'alarme en révélant, en portant vraiment à la connaissance de tous que la spécialité, le diplôme avait été supprimé en 87 à l'occasion d'une réforme des études médicales. Décision avait été prise de supprimer la spécialité de gynécologue médical, pas de gynécologue obstétricien ni gynécologue chirurgical, mais gynécologue médical.
C'était une décision universitaire.
C'était une décision universitaire, on n'en formait plus.
Donc, est-ce qu'il y avait une raison à ça?
Alors la raison, je ne peux pas vous dire, mais le fait est là, la spécialité avait été supprimée. Donc Dominique Malvy a sonné l'alarme en disant « on ne peut pas laisser les femmes sans gynécologue médical ». Donc le comité s'est créé à ce moment-là, il s'est créé sur le plan national et il a œuvré en demandant aux femmes de signer des pétitions, en demandant rendez-vous auprès du ministère, en œuvrant auprès des députés, des sénateurs, des journalistes. Il y a eu des manifestations de femmes pour demander au gouvernement de recréer ce diplôme.
Ce qui fut fait.
Ce qui a été fait en 2003, le ministre de la Santé de l'époque s'appelait Jean-François Mattei. Il était lui-même pédiatre et il a rétabli le diplôme de gynécologue médical. Et à ce moment-là, les terrains de stage, c'est-à-dire les services qui pouvaient former des gynécologues médicaux, avaient fondu comme neige au soleil. On n'a pu former que 20 internes par an pendant plusieurs années.
Donc on a remonté la pente depuis. D'ailleurs, vous avez un petit document sous les yeux racontez-nous.
Donc le comité de défense de la gynécologie médicale n'a pas baissé les bras pour autant. Le diplôme était recréé, mais maintenant il fallait travailler pour qu'il y ait suffisamment d'internes formés par an pour remonter cette pente terrible qui avait été... il y avait eu 17 ans sans formation du tout. Et avant... La suppression du diplôme, on formait environ 100, 110, 120 internes par an. Et là, on se retrouvait avec 20 internes par an. Donc, c'était vraiment abyssal.
Il a fallu redresser, recréer la filière. Il a fallu boucher le trou dans la raquette. Voilà chose qui est faite maintenant. Citez-nous les chiffres, c'est intéressant quand même. On est en 2003, qu'est-ce qui se passe ?
En 2003, il y a donc 20 postes d'internes sur le plan national pour l'année.
Donc on forme 20 gynécologues de cabinet en 2020, 20 pour toute la France. C'est incroyable.
C'est-à-dire il y a 20 postes d'internes, c'est-à-dire il y a des internes qui commencent leur formation, donc ils vont sortir 5 ans plus tard. Donc ils vont pas tout de suite être formés et être
opérationnels, bien sûr. Et en plus, ce qu'il faut préciser à nos auditeurs, c'est qu'avant de rentrer dans cette spécialité, il faut déjà avoir fait plusieurs années de médecine.
Oui, les internes ont déjà plusieurs années de médecine derrière eux. Oui.
Et là, on arrive en 2024, j'ai sous les yeux Alors, on va prendre le chiffre de 2023, il est intéressant. On est à 91 gynécologues formés.
Oui, à 91 postes, c'est-à-dire ils commencent leur formation. En 2023, il y a 91 internes qui vont débuter leur formation. Donc, on était sur une pente ascendante et la mauvaise nouvelle est tombée en 2024 puisque on est sur 79 postes.
Ça veut dire que ça attire moins ?
Non, pas du tout. C'est la réforme des études médicales, de l'internat, pardon, la réforme de l'internat qui a provoqué cette chute de nombre de postes, et pas seulement d'ailleurs en gynécologie, dans d'autres postes aussi. Je peux pas rentrer dans les détails parce que je les connais pas bien, je voudrais pas raconter des bêtises, mais la réforme de l'internat a eu comme conséquence de diminuer le nombre de postes d'internes en gynécologie médicale.
Alors aujourd'hui, le comité de défense de la gynécologie médicale, il fait quoi, il sert à quoi et dans quelle direction vous allez ?
Aujourd'hui, notre combat, c'est d'obtenir une augmentation du nombre de postes d'internes pour qu'il y ait suffisamment de gynécologues médicales dans les années qui viennent. Parce que c'est une spécialité qui a été supprimée pendant 17 ans, donc on ne peut pas considérer qu'elle est au même niveau que les autres. Elle a des besoins supérieurs aux autres puisqu'il y a un trou terrible à combler.
Sachant qu'en plus, grand nombre de gynécologues vont partir ou sont partis à la retraite et qu'évidemment, ça creuse un trou encore plus grand.
Oui, oui, nous sommes effectivement dans une période où les gynécologues, les anciens gynécologues, anciennes formations partent à la retraite. Et quand on regarde la pyramide des âges, on voit qu'il y a un trou important. Et à l'heure actuelle, bon, il y a pour toute la France 1078 gynécologues médicaux avec plusieurs départements où il n'y a aucun gynécologue médical installé qui puisse suivre les femmes.
Et je vois même certaines copines à Paris pour parler de la situation parisienne qui parfois sont susceptibles d'attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de trouver un rendez-vous.
Oui, oui, bien sûr. Quand on regarde les chiffres, en Ile-de-France, en 2010, il y avait 515 gynécologues installés. En 2025, il y en a 227. Donc, moins 288 entre 2010 et 2025.
Alors, pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, parce que dans votre comité, il y a des femmes, bien sûr, vous êtes touchés de très près par ce phénomène, mais il y a aussi des garçons, des hommes. Si on a envie de vous venir, vous donner un coup de main, si on a envie de participer ou si on a envie d'avoir des informations, comment on fait?
Alors, on peut adhérer à l'association, on peut aussi s'engager dans le militantisme en devenant membre du conseil d'administration ou du bureau. Et on peut également consulter. Alors, on a un site internet. Je reconnais qu'on n'est pas très bon, mais on va améliorer les choses parce que maintenant il y a des jeunes qui sont arrivés et on sait très bien que les sites internet, les jeunes, ça leur parle. Et donc, on espère très rapidement avoir un site internet de qualité qui donne des informations de qualité. Nous recueillons des signatures de pétitions, nous faisons remplir un questionnaire pour demander un rendez-vous au ministère et arriver avec des pétitions et des questionnaires qui révèlent à quel point les femmes tiennent à leur suivi gynécologique, ont du mal à avoir un suivi gynécologique, à quel point c'est important pour leur santé. C'est toute la santé des femmes qui est en jeu quand elles ne sont pas suivies.
C'est toute la santé des femmes qui est en jeu quand elles ne sont pas suivies. Vous avez le mot de la fin, Daniel. Je rappelle donc que vous collaborez au comité de défense de la gynécologie médicale. Vous êtes sur le forum des associations dans le 13e arrondissement de Paris et on est ravis. Merci Daniel de nous avoir raconté tout le travail que vous fournissez parce que c'est évidemment extrêmement important ce qui se passe sur ce sujet-là. Merci.
Merci.
Vous êtes bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Et on continue. C'est l'étincelle dans la ville à ce forum du 13e arrondissement, forum des associations, bien sûr. Et à côté de moi, eh ben, figurez-vous, je suis avec Anne-Béatrice et Marie-Claude. Anne-Béatrice, vous faites partie déjà d'une association?
Ah oui, je suis même présidente d'une association, mais pas du tout dans le même domaine.
Mais dans quel domaine?
Dans le domaine de la danse historique.
La danse historique?
Oui, tout à fait.
Eh ben, vous nous raconterez ça un jour. Et Marie-Claude, même question?
Ah, moi, je suis au conseil des quartiers, c'est tout. C'est déjà très prenant. Donc, oui, j'ai été responsable de ce conseil de quartier pendant 6 ans. Et maintenant, je m'occupe de la commission culturelle.
Bonjour à toutes les deux. Bonjour Anne-Béatrice.
Bonjour.
Bonjour Marie-Claude.
Bonjour.
Alors là, vous êtes devant moi dans ce forum des associations où vous avez un petit stand parce que on va parler de conseil de quartier. Alors conseil de quartier, ça dit beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais en réalité, vous allez nous raconter comment ça marche et à quoi ça sert, si vous me le permettez.
Alors, le conseil de quartier est une institution qui est liée à la loi Vaillant, passée au début des années 2000, et qui demande que dans toutes les grandes villes soient créées des assemblées de citoyens par quartier, assemblées de citoyens bénévoles, qui dépendent de la mairie, mais gardent quand même une certaine indépendance, qui disposent d'un budget d'investissement et d'un budget de fonctionnement qui est procuré par la mairie. Ce budget n'est pas le même dans toutes les villes ni dans tous les arrondissements. Le fonctionnement des conseils de quartier est différent selon les villes, en fait. Donc, le 12e arrondissement et le 13e ou le 16e ou le 8e ne vont pas fonctionner de la même façon. C'est un fonctionnement qui reste très libre et à la discrétion.
Chacun gère son conseil d'arrondissement comme il en a envie, mais Ma vraie question, c'est à quoi ça sert un conseil d'arrondissement, Marie-Claude ?
Non, ça sert en... Alors d'abord, il y a deux types de réunions qui ont lieu tous les ans, les réunions du bureau, et le bureau fait un certain nombre de propositions de changements, d'amélioration du quartier, et ensuite c'est voté en assemblée plénière. En général, les assemblées plénières ont lieu une fois par trimestre.
Alors ça, c'est l'organisation, c'est les effets, mais qui sont ces gens qui constituent ces conseils de quartier ? Ils tombent du ciel avec un parachute dans votre bureau ? Anne-Béatrice.
Alors, ces gens ne tombent pas du ciel. Enfin, ils pourraient, puisque sur la butte aux Cailles, vous savez que nous sommes le lieu où, au début novembre 1783, a atterri la première montgolfière montée par Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande. Voilà. Mais nous ne tombons pas du ciel ni de la montgolfière. Nous sommes tirés au sort sur la base de candidature. Le tirage au sort se passe à la mairie. Pour les membres du bureau d'animation. Et que fait ce bureau d'animation ?
Si des auditeurs veulent se présenter, ils peuvent se présenter. Après, il y a un tirage au sort. Ils font partie de vous faites partie de l'organisation de ces conseils de quartier. Mais j'imagine que si on veut participer à ces conseils de quartier, il y a des trucs pour y participer. Il y a toute une organisation derrière. Racontez-nous, Marie-Claude.
Alors, de toute façon, quand on est un citoyen lambda, on peut assister à toutes les réunions. On n'a pas besoin d'être tiré au sort, on peut être présent, de toute façon. Simplement, on ne pourra pas voter, par exemple, aux décisions du bureau, mais on pourra donner son avis. Et ensuite, dans la réunion plénière, ce sont tous les habitants de l'arrondissement, ou du quartier plutôt, qui sont conviés et qui viennent, et qui parlent des problèmes qu'ils ont près de chez eux, des choses qu'ils voudraient voir améliorées, etc. Donc là, ce sont des gens qui n'ont pas été tirés au sort, ce sont des gens simplement du quartier qui veulent parler de ce qui doit changer.
Anne-Béatrice, Marie-Claude, ça y est, on arrive au cœur du sujet. Les habitants peuvent participer à ce conseil de quartier. Moi, j'habite dans le 13e. Comment je fais pour être informé? Comment je sais où est-ce que ça va se passer? Comment je sais ce que j'ai le droit de dire? Dites-moi tout. Allez, racontez-nous.
Alors, vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire, tant que ça n'est pas contraire à la loi. Comment vous pouvez participer? Tout simplement en suivant nos activités, soit en vous inscrivant sur la newsletter de la mairie, soit en vous inscrivant sur notre propre newsletter. Nous avons une liste d'emails qui est complétée par les gens qui ont envie d'entendre parler de nous. Et à partir de là, nous envoyons un email à peu près une fois par mois pour tenir au courant de nos activités. Comme vous le voyez, nous avons également un journal que nous publions à peu près tous les deux mois. C'est tous les deux mois, Marie-Claude ?
Plutôt tous les trois mois. En fait, c'est par saison. Il y en a un au printemps, à l'hiver, l'automne, etc. Bon.
Ce journal rend plutôt compte de ce que nous avons fait plutôt que d'annoncer, puisqu'il n'est pas très très fréquent. Ce journal contient aussi des interviews, des articles de fond. Il faut savoir que nous ne sommes pas du tout une institution politique. Nous sommes citoyens et bénévoles, donc nous n'avons
aucune fonction politique et aucune orientation politique particulière. Nos orientations politiques, nous les gardons pour nous.
C'est clair et net, vous l'avez bien précisé, c'est apolitique. Une fois que tout le monde s'est réuni, une fois que les gens se sont exprimés, ont raconté ce qui leur arrivait, les désiratales et je ne sais quoi encore, qu'est-ce qui se passe derrière? Moi, je veux savoir.
Alors, nous entreprenons des actions. Alors, soit des actions de fonctionnement, soit des actions d'investissement.
Est-ce que vous allez voir monsieur le maire? Toc, 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 bonjour. Voilà ce qui s'est passé dans le dernier conseil de quartier.
À la mairie, il y a un bureau des conseils de quartier et c'est à eux qu'on s'adresse. Et d'ailleurs, la personne que vous voyez là est la responsable de ce bureau des conseils de quartier à qui on s'adresse quand on a décidé qu'il fallait travailler sur tel ou tel sujet.
C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un tri de tout ce qui tombe dans votre escarcelle, si je peux me permettre d'employer ce terme. Et après, vous le redispatchez aux instances de la mairie?
En quelque sorte. Plutôt, nous faisons des propositions que nous transmettons à la mairie via le bureau des conseils de quartier. Les services de la mairie étudient ces propositions. Certaines sont réalisables, certaines ne le sont pas. Et la mairie revient vers nous avec un accord ou un désaccord. Quand il y a accord, le projet va plus loin. Je peux vous donner un exemple. Nous organisons tous les mois des rencontres culturelles avec des artistes, des écrivains, des musiciens, toutes sortes d'acteurs culturels. Ce projet ne demande aucun financement puisque nous sommes bénévoles, nous trouvons des salles bénévoles, les artistes sont bénévoles aussi. La mairie a accepté que nous le fassions. Nous le faisons tous les mois et vous êtes ici au bon endroit puisque Marie-Claude et moi faisons partie de la commission culture. Donc ça, c'est un projet qui ne demande pas de budget. Certains projets exigent du budget. Nous avons par exemple en ce moment le projet d'une fresque de street art sur un mur du quartier. Ce projet demande du budget pour payer l'artiste, pour payer la nacelle qui va permettre à l'artiste de peindre. Et donc, il a fallu, bien sûr, l'accord de la mairie pour dégager ce budget. Même s'il nous est réservé à nous, conseil de quartier, il ne peut pas être utilisé, par exemple, pour des fins privées, personnelles. Il faut vraiment que ce soit de l'intérêt collectif.
De la collégialité, de l'intérêt collectif. Anne-Béatrice, Marie-Claude, je vois que vous y allez à fond la caisse. Et vous êtes au taquet. Et aujourd'hui, sur votre petit stand, il y a des gens qui passent, qui regardent, qui s'informent. Donc, les conseils de quartier. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez participer à ces conseils de quartier, vous avez le mode d'emploi. Il suffit d'aller sur le site de la mairie.
Oui, aller sur le site de la mairie du 13e.
Est-ce qu'il faut s'inscrire?
Il vaut mieux s'inscrire pour avoir les informations.
Oui, mais pour y participer.
Et la plupart du temps, il n'y a pas du tout besoin d'inscription pour participer. Ainsi, nous aurons notre prochaine rencontre culturelle le 11 octobre avec un auteur de contes dans un lieu du 13e. Le lieu est encore...
Secret. On le saura plus tard.
Non défini, pas secret.
Merci. Merci beaucoup Anne-Béatrice, merci Marie-Claude, faut qu'on continue, faut qu'on en laisse un peu pour les autres, hein, parce que là il y a du monde ici. Et puis bonne continuation, et j'ai qu'une envie, c'est de participer à un conseil de quartier. Si je viens avec mon micro et avec Lucille, ça vous pose pas de problème? Merci à toutes les deux.
Venez aux prochaines réunions des rencontres culturelles, ça c'est intéressant, vous verrez.
Merci Marie-Claude.
Merci à vous.
Merci Anne-Béatrice.
Merci à vous.
Au plaisir, et on continue, c'est dans l'étincelle dans la ville.
Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Et oui, c'est sur Aligre FM, donc sur ce fameux forum des associations sur lequel nous nous trouvons actuellement. Alors, pour être simple et clair, nous n'avons pas pu aller à la rencontre de toutes ces associations, plus de 200, ça aurait mérité des dizaines d'émissions. Par contre, si des associations souhaitent bien sûr venir témoigner à ce micro, elles seront les bienvenues. Donc n'hésitez pas, vous avez une adresse mail sur le site d'Aligre FM. Nous allons faire, pour vous mettre en forme, une petite pause musicale et je vous propose une petite perle dont on ne se lasse pas. Les influences de la chanteuse qui va suivre ont commencé avec son père qui fut le premier homme afro-américain à jouer des rôles principaux au Metropolitan Opera. Il a chanté le rôle de Porgy, interprété par Sidney Poitier dans la version cinématographique de Porgy and Bess en 1959. Et sa mère était également chanteuse professionnelle. On écoute avec joie Madison McFerrin. Allez, on déguste ce magnifique morceau et cette voix magnifique. Le titre de la chanson, c'est Learn Your Lesson et c'est sur Aligre, c'est Dans l'étincelle dans la ville.
Oh,
êtes bien sur la messagerie de l'Étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Ah, moi je m'en lasse pas, hein. je m'en lasse pas du tout de Madison McFerrin, c'était Learn Your Lesson. Alors, on continue notre route sur ce forum des associations, notre randonnée, parce qu'il y en avait beaucoup, hein, je l'ai précisé avant la pause musicale, on n'a pas pu aller à la rencontre de toutes, mais là, ce qui va suivre, on va se rapprocher d'une maison très particulière, d'une maison, allez, je vous en dis pas plus.
Je fais partie de la maison des associations, je travaille avec la mairie du 13e arrondissement.
Moi, ce que je voulais savoir, si vous faites partie d'une association, c'est encore mieux. Vous faites partie, en fait, d'une structure qui, elle, gère des associations. C'est encore plus important que d'être dans une seule association. Et vous, bonjour, pardonnez-moi, j'ai oublié votre prénom, c'est comment ? Bonjour Jacqueline, vous faites partie d'une association ?
Je fais pas partie d'une association, mais je travaille à la maison des associations du 13e.
Régis ? Vous faites partie de la maison de la vie associative et citoyenne. Ouais, c'est long, hein. C'est quoi la maison de la vie associative et citoyenne? Ça sert à quoi?
528 associations sont inscrites chez nous.
Mais ça sert à quoi qu'elles soient dans votre maison?
On leur prête des salles. Elles peuvent s'inscrire chez nous et être domiciliées chez nous. On les conseille. On peut, au niveau publicité... Donc, elles peuvent bénéficier d'affichage numérique, affichage associatif.
Et mon petit doigt m'a dit qu'elles avaient même une possibilité de recevoir leur courrier.
On leur prête des boîtes aux lettres, oui. Voilà, elles peuvent être domiciliées chez nous.
J'imagine qu'il doit y avoir plein de choses qui se passent quand même dans cette maison. Régis nous a donné les grandes lignes, mais il doit y avoir des événements, il doit y avoir des... Racontez-nous.
Tous les jours, il y a des associations qui viennent à la maison des associations pour se réunir dans les salles. Pour faire des réunions administratives, des assemblées générales, pour faire des conférences, il y a des événements, il y a beaucoup de choses, c'est très varié. Tous les mois, notre directeur organise des événements, le bénévolat dating.
C'est quoi le bénévolat dating?
C'est réunir des bénévoles et des associations, des futurs bénévoles et des associations, les réunir, les faire se rencontrer et faire conclure... ensemble.
Le nerf de la guerre pour les associations, bien sûr, ce sont les adhérents, ce sont les bénévoles.
Oui, exactement.
Sans bénévoles, pas d'association. Alors, plus d'1,8 million salariés en France qui travaillent dans les associations, plus de 6 millions d'adhérents dans les associations, une vraie économie aussi, et c'est pas uniquement qu'un secteur uniquement dédié à je dirais, au bénévolat, c'est aussi plein de choses qui se passent, et sans parler de tous les collectifs non déclarés, notamment chez les jeunes. Ça représente un poids énorme en France et la maison de la vie associative et citoyenne en fait partie. Vous les accueillez, vous les recevez, vous les aidez. Qu'est-ce qu'il y a comme événements qui vont se préciser là dans le mois d'octobre, novembre? Vous avez un petit truc à nous raconter?
La rentrée des associations.
Hein. En ce moment, il y a la collecte des fournitures scolaires. Il y a une collecte de fournitures scolaires de première main et aussi des neufs, aussi du neuf.
Alors, c'est une association qui organise ça?
Non, c'est la maison des associations qui organise ça, qui organise cette collecte. Et après, on va donner aux associations qui en ont besoin et qui sont en lien avec des familles qui en ont besoin de ces fournitures.
Voilà un exemple tout à fait concret du travail que vous faites à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement, organisé sous l'égide de la mairie du 13e.
Bien sûr, on fait partie de la mairie du 13e.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Juste un dernier truc avant de nous quitter. Si des associations entendent vos propos, qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer ou pour pouvoir bénéficier de ce qui se passe à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne?
Il faut venir chez nous à nos horaires d'ouverture, 11 rue Caillot, nous téléphoner ou venir chez nous à nos horaires d'ouverture et on peut les renseigner, on peut leur apporter des aides, les aiguiller. Si nous, on ne peut pas les aider, on peut les envoyer vers le carrefour des associations parisiennes qui, eux, là-bas, sont encore plus spécialisés pour les problématiques que rencontrent les associations. Nous, on peut les aider, bien sûr, dans des problématiques lors de la création, pour des choses... dont on a la compétence, mais quand on n'a plus la compétence, c'est on les envoie vers le carrefour des associations parisiennes, le CAP, qui est dans le 12e avenue Daumesnil.
Voilà, vous en savez autant que moi maintenant sur cette maison de la vie associative et citoyenne du 13e arrondissement. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et puis, bah, bonne continuation. Alors, je rappelle que c'est l'étincelle dans la ville. Vous êtes sur Aligre FM. On est au forum des associations. C'est la rentrée. Boulevard Blanqui, c'est tous les ans la même chose. Les associations ont des stands et on vient de faire le premier stand et vous rendre une petite visite. C'est normal. C'est vous qui organisez un petit peu tout ça. Merci de votre accueil et à très bientôt.
Bonjour, vous savez où vous êtes ? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission « L'étincelle dans la ville », présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Jérôme Coumet, est-ce que vous faites partie d'une association ?
Alors, j'ai fait partie longtemps d'associations. C'est comme ça que je me suis engagé en politique, d'ailleurs. Hein. Association étudiante, association locale du 13e. Et aujourd'hui, en tant que maire, c'est plus délicat. Donc non, je ne fais plus partie d'associations. Par contre, je suis au contact, évidemment, quasi quotidien avec des responsables associatifs.
Eh bien, vous l'avez compris, on va parler d'association. Aujourd'hui, on est avec vous, monsieur le maire, premier magistrat du 13e arrondissement, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, exactement, oui.
Et vous êtes au forum des associations que vous soutenez, ces associations que vous parrainez, que vous aidez, que vous encouragez. Alors, c'est quoi le rôle d'un maire d'arrondissement avec ces associations ? Comment ça marche avec eux ?
D'abord, les associations, il y en a de plein d'ordres différents. Il y a des associations qui sont au service du public, soutenues très fort par la municipalité. Vous avez des associations, à l'inverse, très indépendantes, des gens qui ont choisi de se regrouper sur tel ou tel sujet, telle ou telle passion commune. Et donc, il y a une palette, évidemment, très conséquente. Aujourd'hui, il y a deux forums en même temps. C'est-à-dire que vous avez un forum des associations sportives, qui en profitent pour faire notamment le contact avec les habitants, mais aussi enregistrer tous leurs adhérents chaque année, renouveler les adhésions. Et donc, eux, ils restent du mercredi jusqu'au samedi. Et puis, ce forum sur le boulevard Blanqui, où c'est uniquement la journée, ce qui est déjà un engagement important, hein, d'ailleurs, au passage, hein, pour des petites associations, il faut tenir la distance. Et ça leur permet à la fois de voir le public, c'est ça le plus important, mais aussi de voir les associations, de comparer leur façon d'organiser leur travail, de voir aussi les responsables publics, et j'en fais partie.
De vous rencontrer, monsieur le maire.
Exactement, c'est pour moi une occasion très importante. J'y passe toute la journée. Vous l'avez vu, parce que vous m'avez vu le matin au démarrage, et là, on a passé toute la journée sur le forum.
Ce forum, eh ben, il a un aspect particulier parce qu'il est sur un boulevard, il démarre Place d'Italie et il se prolonge sur le boulevard Auguste Blanqui. C'est en plein air, on a de la chance, il fait un temps clément aujourd'hui. Tous les ans, c'est le forum qui leur est dédié au même endroit.
Exactement, on reprend tout simplement les emplacements d'un marché alimentaire, ce qui nous permet d'avoir l'infrastructure, l'organisation. C'est les agents de la propreté qui nous aident, parce qu'on rajoute des panneaux pour qu'ils puissent afficher des choses, etc., des tables, des chaises évidemment. Et donc c'est un emplacement de marché que tous les habitants du 13e connaissent, et donc c'est facile pour eux de le retrouver.
Et là, on peut faire son marché. Si on veut adhérer à une association, on peut les rencontrer, discuter avec eux, parce qu'on le sait, le nerf de la guerre des associations, c'est évidemment l'argent. Mais avant tout ça, ce sont les adhérents, ce sont les bénévoles.
Exactement. Et la recherche est différente d'ailleurs d'une association. Vous avez donné les mots-clés. Il y a des associations qui cherchent des bénévoles, tous ceux qui font du soutien scolaire, qui sont orientés vers des activités sociales. Ils ont besoin de bénévoles, sinon ça ne tournerait pas. Il y a certains qui recherchent des adhérents, parce que quand on fait des activités culturelles, de peinture, de sculpture, etc., c'est avoir des personnes qui se regroupent ensemble pour faire la même activité. Donc, on est sur des attentes différentes. Parfois, c'est les deux, d'ailleurs, hein, pour certaines associations. Et puis, vous avez des grosses associations qui sont orientées vers plein de thématiques différentes. Et donc, là, qui ont une offre pluraliste, elles ont besoin de se faire connaître, elles ont besoin d'être au contact des habitants du 13e, parce que c'est comme ça que, justement, il y a des personnes qui participent.
Alors, ce forum est dédié aux associations du 13e, j'imagine qu'ils sont installés sur le 13e.
Oui, alors c'est quasiment uniquement les associations du 13e, mais il y a quelques associations parisiennes ou nationales qui présentent aussi leurs activités. Alors, on essaie de ne pas trop s'éparpiller parce que vous avez vu, ce forum, c'est déjà un immense ruban qui se développe sur une bonne partie du boulevard Blanqui.
Combien d'associations, monsieur le maire?
Il y en a près de 200 qui sont présentes aujourd'hui, donc ce qui est évidemment énorme.
Et puisqu'on est dans les chiffres, je vous interromps. En France, je le rappelle, je l'ai rappelé au début de cette émission, c'est 1 800 000 emplois, les associations. C'est près de 6 millions de bénévoles. C'est énorme, l'économie des associations. Et évidemment, dans votre arrondissement, ça a aussi des conséquences, des répercussions.
Oui, c'est très important. Moi, j'ai l'impression souvent, je dis, alors, désolé pour la parabole informatique, mais... nous, on est plutôt sur les infrastructures, on fabrique les ordinateurs, mais les ordinateurs sans les programmes, ça tournerait pas, quoi. Et les associations, c'est toute cette sève qui irrigue un territoire. C'est ça qui fait du lien social, c'est ça qui permet des rencontres. C'est aussi beaucoup d'actions très importantes. Je parlais du social tout à l'heure. Et voilà, c'est toute cette richesse qu'on mobilise, qui repose sur plein de personnes différentes, beaucoup de retraités. Il était de bon ton de mettre en cause les boomers ces derniers temps, mais voilà, beaucoup des personnes qui font tourner les associations sont des personnes retraitées qui s'engagent, notamment pour toute la palette qui vont vers les autres. Voilà, donc tout ça, c'est une énorme richesse. On est le premier arrondissement en nombre d'associations de tout Paris. Et là, prochainement, d'ailleurs, on va leur offrir un nouvel outil, une nouvelle maison des associations pour mieux les accueillir.
Alors justement, j'allais vous poser la question, c'est quoi ce nouvel outil? C'est quoi ce nouvel endroit? Parce qu'il y a une demande incroyable. Nous-mêmes, on est une association, vous le savez, monsieur le maire. Tout ce que vous dites, évidemment, ça nous touche. Mais l'endroit où les associations peuvent s'installer, ça fait parfois défaut. Il y a une telle demande. Alors racontez-nous.
Oui, à Paris, on sait, le foncier est cher, louer un local, c'est très cher. Alors, on a mis à disposition des associations beaucoup de choses. Hein. On a demandé aux bailleurs sociaux de réserver toute une série de locaux pour les associations avec une tarification adaptée, c'est-à-dire évidemment beaucoup moins cher que le prix normal. Mais il faut aussi des lieux où elles puissent se réunir, se voir, tenir des permanences, etc. Ça, c'est les maisons des associations, les maisons de la vie associative à Paris, ça s'appelle. Et donc, on en avait une dans le 13e, évidemment, mais dont les murs étaient peut-être sans doute trop étroits. Et là, on a récupéré un bâtiment scolaire très bien placé, parce que juste à côté de la place d'Italie, et dans le 13e, tous les chemins mènent non pas à Rome, mais à la place d'Italie. Et donc, ça va être un nouveau lieu pour les associations. Et on en ouvre d'autres. C'est-à-dire que récemment, on vient d'ouvrir une nouvelle médiathèque dans le 13e. Et attenant à cette médiathèque, il y a une salle qui peut être mobilisée par les associations. Il y en a certaines qui sont déjà inscrites, donc les répétitions de théâtre, de musique, etc., etc. Et qui est une salle qui sera ouverte, y compris en dehors des horaires d'ouverture de la médiathèque. Donc voilà typiquement des choses intelligentes, malines, qui permettent d'avoir une offre complémentaire en sus de la nouvelle maison des associations.
On a une petite idée de l'ouverture Place d'Italie, de la date?
De la nouvelle maison des associations, ce sera au début de l'année prochaine. Donc en janvier-février prochain, on aura une nouvelle maison des associations qui tournera et qui sera ouverte au public.
On va terminer cet entretien avec vous, monsieur le maire. Merci d'avoir accepté. On s'est couru derrière, je m'en voulais pas, j'ai eu du mal à vous retrouver. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année sur ce forum des associations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe plus particulièrement?
Ce qui me frappe, c'est que dans ces temps un peu troublés, et les gens m'en parlent évidemment, ils m'en ont parlé toute la journée, eh ben, on trouve malgré tout une énergie, une résilience, une envie de faire des trucs sympas et sans se mettre la tête sous le sable. Et voilà, c'est toute cette énergie qu'on mobilise à travers le tissu associatif. Et ça m'a particulièrement marqué cette année.
Merci pour votre accueil. Et je remercie aussi au passage Benjamin Ratto. On s'est couru aussi derrière, mais ça y est, on a réussi à se rencontrer. Je vous souhaite une bonne continuation. Je sais que vous en avez du monde à voir.
Exactement, j'ai pas encore vu tout le monde, alors j'ai même pas déjeuné, mais voilà, donc c'est pas une course de vitesse, vous voyez, je mets la journée à descendre le boulevard Blanqui, mais je vais y arriver et avoir tout le monde.
Merci beaucoup, monsieur le maire, et bonne continuation. Voilà, cette émission L'étincelle dans la ville va se terminer depuis le boulevard Blanqui pour le forum des associations du 13e arrondissement. Alors, je m'en excuse à nouveau pour toutes les autres associations que nous n'avons pas pu rencontrer. Vous êtes nombreux, que ce soit aussi bien sur des domaines comme la solidarité, l'environnement, les mobilités, la culture, les loisirs, ou les associations qui se consacrent aux seniors, au bien-être, au handicap, à la santé, à l'inclusion, à l'institutionnel. Voilà, tout ça, c'est au forum des associations. Bien sûr, pour les jeunes, pour la citoyenneté, pour les familles, bref, 200. Monsieur le maire nous a bien dit 200 associations, ça fait beaucoup, on ne pouvait pas tous aller les voir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Par contre, je le redis et je relance cet appel, bien sûr. Si des associations veulent venir nous raconter ce qu'ils font, eh ben, n'hésitez pas. L'étincelle dans la ville, c'est une émission sociétale. Que vous soyez lanceur d'alerte, observateur éclairé, créateur d'événements, empreint d'humanisme et d'équité, nous donnons la parole en allant à la rencontre d'initiatives, de mouvements, d'événements encore trop méconnus. Vous pouvez retrouver l'adresse mail et le téléphone ainsi que les podcasts de l'étincelle dans la ville sur le site d'Aligre FM, mais aussi sur les plateformes comme Acast, Spotify. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci au collectif qui organise l'association Radio Aligre. Et oui, nous sommes une association. Hein. Merci au collectif des réalisateurs d'Aligre FM. Kumba Falcoast, René Clancy, Armand Gury, Lucas Pantour, Philippe Donnefort, Renaud Poussin de Wilt, Enrico Mastro Giovanni. Et le petit dernier qui vient d'arriver, il s'appelle Adam. Alors le petit dernier est grand par sa taille. Hein. Et bien sûr son chef d'orchestre, Bruno Mandé. Aujourd'hui à la réalisation, Didier Robert. Didier Robert, ça s'est bien passé ?
Oui, bien sûr.
Voilà, bah, tout était carré. Hein. Merci beaucoup Didier et à la production Stéphanie Malaret et Lucille Montier. Sans oublier bien sûr nos partenaires, la Ligue de l'enseignement Fédération de Paris, partenaire, et le collectif Le Moment, que vous pouvez retrouver chaque semaine sur Aligre FM. Aligre FM, c'est sur votre poste de radio en FM, sur le 93.1 ou sur le DAB+, mais c'est aussi sur vos écrans de portable, de téléphone. Et bien sûr, c'est gratuit. Et oui, la radio, je le rappelle quand même, c'est un média entièrement gratuit pour tout le monde. Alors, comme Aligre FM est un espace d'expression, de partage, de rencontres et d'échanges composé de ce collectif de journalistes et d'animateurs libres et indépendants et bénévoles, il recueille tout au long de l'année les paroles, en prenant le temps de penser, de scruter ou de contempler le monde dans toutes ses composantes. Eh bien, figurez-vous que comme nous sommes une radio associative non commerciale, une radio libre depuis bientôt 45 ans, et oui, c'est loin d'être anodin. Alors, si vous souhaitez soutenir Aligre FM, bah, vous vous gênez pas, hein. Rien de plus simple, rendez-vous sur le site internet d'Aligre FM pour faire un don. Voilà, bien sûr, je remercie aussi Gaspard Proudhon qui participe à l'émission dans son petit coin, et pour ma part, je vous retrouve lundi prochain à 9h, on se retrouve avec grand plaisir, car l'étincelle dans la ville, c'est terminé.
Les brouillages de sinistre mémoire ont repris.
En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran.
Aligre FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.